Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. Je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui et j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Perrault, professeure de yoga spécialisée dans le yoga prénatal pour préparer les femmes dans leur corps et dans leur tête à l'accouchement grâce au yoga. Sarah est aussi membre du programme YogiBiz Line, qui est mon gros programme signature au sein de YogiBiz Coaching, où je t'apprends à développer ton activité de yoga ou de thérapeute en ligne. Sarah est donc membre de YogiBiz Line depuis sa première édition en novembre 2020 et on avait à cœur toutes les deux de vous offrir cette discussion sans filtre sur son parcours et le lancement de son premier programme au mois de mars de cette année 2022. Alors, quelles étaient ses motivations à franchir le cap du business en ligne? Quelles sont les croyances qui ont pu la servir ou la desservir jusqu'à aujourd'hui et dans son parcours en ligne? Les stratégies et le mindset derrière le lancement de son premier programme? Ce qui l'a aidé à supporter les principaux challenges quotidiens d'une activité de yoga en ligne? Et enfin, comment aujourd'hui, grâce notamment à la méthode YogiBiz Line, elle s'apprête à développer un écosystème en ligne complet avec un réel parcours client pour fidéliser ses élèves tout en automatisant de plus en plus son business de yoga. Une discussion vraiment ouverte et franche sur l'entrepreneuriat, un cocktail mindset et stratégie pour toutes les profs de yoga and more qui veulent aussi vivre de leur passion en ligne. Je laisse tout de suite place à ma conversation avec Sarah. Salut Sarah, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur YogiBiz Podcast.
Salut Cécile, je suis ravie d'être là, merci pour l'invitation.
Ça me fait super plaisir aussi. Écoute, ce que je te propose, c'est de te présenter et puis après, eh bien, on rentrera un petit peu dans le détail de ton histoire avec le développement de ton business de ton yoga en ligne, de ton business de yoga en ligne. Mais avant, voilà, dis-nous un petit peu qui tu es.
Écoute, je suis Sarah, j'ai 36 ans, j'habite à Toulouse et j'enseigne le yoga depuis, c'est ma cinquième année, donc c'est mon activité principale depuis bientôt 5 ans et pour le coup ça a été une activité principalement en studio hein, les premières années où j'enseignais quasiment uniquement le vinyasa et il y a 2 ans j'ai eu un petit garçon qui m'a donné très très envie d'accompagner les futures mamans dans leur bien-être au quotidien pendant toute la grossesse. Donc, je me suis formée au yoga pré- et post-natal. J'ai fait 3 formations de yoga pré- et post-natal depuis. Donc, vraiment spécialisée autour de ça. Et du coup, j'enseigne aujourd'hui un petit peu de vinyasa, mais surtout principalement le pré-natal à la fois en studio, en ligne, sur YouTube, tout ça, quoi.
Ok. Et du coup, donc tu nous dis que ça fait 5 ans que tu enseignes. Qu'est-ce que tu faisais avant? C'est une reconversion ou
Oui, tout à fait. J'ai profité en fait de notre arrivée à Toulouse, notre déménagement avec mon mari pour changer un peu de vie et de ville en même temps. Donc, je travaillais avant dans la communication, le marketing à Paris pendant 7 ans. Je crois, quelque chose comme ça. J'avais quand même senti, même en étant à Paris, qu'il y avait un gros besoin de faire autre chose et de me tourner beaucoup plus vers de l'accompagnement au bien-être. Et voilà, le déménagement m'a permis de faire vraiment cette transition que je trouvais plus difficile à faire dans les conditions dans lesquelles on était quand on était à Paris, quoi.
Ouais, ok. Donc du coup, une vraie reconversion professionnelle quand même, parce que 7 ans en entreprise, du coup, c'est pas rien. Et qu'est-ce qui t'a, quel a été le déclic la source du fait d'avoir envie de développer ton activité de yoga en ligne du coup?
Alors, je crois que c'est une idée que j'avais en tête depuis quand même vraiment quasiment le début de mon enseignement. Parce que comme j'étais un peu dans ce monde-là de la com, du marketing, du marketing digital, c'est quelque chose que je connaissais déjà au moment où j'ai lancé mon activité de prof, mais bah, sans avoir de technique, sans avoir de méthode pour vraiment le faire. Donc, j'avais créé un petit e-book déjà à l'époque. J'avais eu pas mal de téléchargements quand même avec le temps, mais sans jamais concrétiser, sans jamais vraiment lancer mon programme derrière. Bon, surtout pour des questions d'état d'esprit, je pense, mais c'était quand même voilà, quelque chose qui était présent, une envie qui était là depuis le début de mon activité.
Après, si on remonte 5 ans en arrière, c'était présent dans le début de ton activité, mais c'était peut-être pas non, enfin, il y avait peut-être, enfin, c'était peut-être moins connu aussi entre guillemets le développement, enfin, parce que effectivement, à l'époque, il y avait quasiment, enfin, moi, je me souviens que quand j'ai lancé Yogi Biz Coaching, effectivement, il y avait très très peu de yoga en ligne qui existait, à part, par exemple, enfin, voilà, des grosses plateformes de vidéos préenregistrées, très peu en France d'ailleurs. Mais voilà, ça n'existait quasiment pas. Et donc, est-ce que c'était déjà l'idée de vivre, enfin de développer ton business en ligne pour en vivre et avec cette notion voilà, de scalabilité, de liberté, etc. Ou alors, est-ce que c'était plutôt juste dans l'idée de te faire connaître, de diffuser le yoga au plus grand nombre et donc dans un état d'esprit de partager du contenu gratuit, entre guillemets, c'est-à-dire, voilà, de, comme tu dis, un e-book, etc. Est-ce que voilà, tu avais déjà la petite étincelle de te dire tiens, je pourrais vivre de cette activité en ligne et voilà, avoir du coup toute cette liberté autour.
Ouais, je crois que ça, cet aspect-là, c'est celui qui était le plus présent au départ. Parce que ben, je pense que comme toutes les jeunes profs de yoga qui se lancent, j'ai commencé en donnant 15 cours par semaine. Donc, j'avais un emploi du temps bien rempli, à courir à droite à gauche, à parcourir toute la ville, aller d'un studio à un autre.
Ah, c'est pas un mythe alors.
Écoute,
ça existe
pour moi,
réellement.
Ça existe réellement. Ouais, ouais. Moi, les deux premières années, ça a été ça. Même quand du coup j'étais enceinte de mon fils, ça a été ça. Et j'enseignais un peu que le vinyasa à ce moment-là. Hein, donc c'était que des cours dynamiques. Ouais. Ça a été ça. Et pour le coup, c'était. À ce moment-là de ma vie, c'était, ça me convenait parce que voilà, j'avais besoin aussi de dépenser cette énergie, et ça me plaisait énormément de donner tous ces cours. Mais à un moment donné, bah, y a quand même l'aspect financier qui entre en jeu et tu te dis bon, bah, les cours où tu gagnes 30 euros ou tu donnes 1h15 de cours, t'as mis une demi-heure à aller à l'endroit où tu vas, une demi-heure à repartir, plus le temps d'accueil des élèves. Tu te dis clairement, enfin, c'est pas rentable. Donc j'ai quand même assez rapidement pas trop mal gagné ma vie avec tous ces cours. En fait, comme j'en avais tellement qu'au bout d'un moment, ça finissait par s'additionner.
Oui, quand même, oui.
Ouais, mais voilà, je suis tombée enceinte et je me suis dit, bah, j'ai quand même un peu envie de voir mon fils. Et bah, clairement, les cours qui fonctionnent bien, c'est les cours du soir. Donc, les gens viennent après le travail. Et j'avais pas envie de passer toutes mes soirées à pas voir mon fils et d'être tout le temps à droite à gauche. Et surtout, en fait, au bout d'un moment, c'est quand même hyper fatigant. Tous les déplacements, en fait, au-delà des cours en eux-mêmes, tous les déplacements qu'il y a autour, moi, c'était un truc qui commençait à me faire saturer. Donc, c'était vraiment, je pense, dès le départ, dans l'idée de trouver un équilibre, en fait, parce que j'ai quand même besoin de cette présence physique, de voir les gens, de pouvoir accompagner physiquement, mais aussi l'idée de pouvoir développer en parallèle quelque chose d'autre qui me permette d'arrêter de dépenser mon temps contre de l'argent, quoi.
Et du coup aussi de pouvoir prendre ou garder uniquement des cours en présentiel qui seraient des cours plaisir, des cours vraiment voilà.
Exactement. Okay. Ouais, exactement.
Et du coup, donc tu as rejoint toi Yogi Bizline lors de la première cohorte. C'était en novembre 2019 ou 2020. Ah bah du coup j'ai.
Non, 2020. C'est sûr,
2020. Oui, ouais. T'as raison. Ok, c'est bien Cécile, je ne sais même plus quand est-ce que j'ai lancé mon entreprise et mon offre. Et donc, dans quelle situation, quand tu franchis le pas, quand tu appuies sur le bouton rejoindre Yogi Bizline, dans quel état d'esprit tu es à ce moment-là, dans quelle situation on est, pourquoi tu fais ce saut en fait?
Alors, pour plein de raisons, parce que déjà, comme je l'ai dit, j'avais cette idée en tête hein, quand même de développer une partie de mon activité en ligne depuis longtemps. Et franchement, avant toi, rien n'existait pour accompagner les profs de yoga dans cette démarche. Vraiment. Donc, ça a été, quand j'ai vu que tu as lancé ton offre, j'en ai parlé à mon mec parce que bah, c'était forcément, tu sais, une petite somme. Et, ouais. Et il me dit, mais oui, bien sûr, vas-y, fonce. Évidemment, fais ça. Et pour rappel, quand même, novembre 2020, on était dans le deuxième confinement, je crois.
Ouais, enfin, il y avait une. Ouais, une voilà. Ouais, c'était un remake du premier, ouais.
Exactement. et moi, pour le coup, mon petit avait genre 7 mois à l'époque, 7 ou 8 mois. Et il n'était pas gardé parce que, bah, on n'avait pas de place en crèche, parce que de toute façon, on était confinés, il y avait. C'était le bazar. Donc, je l'avais avec moi à temps plein, quoi. Et donc, du coup, bah, les studios étaient fermés, je ne pouvais pas donner de cours. Je donnais quelques cours en ligne à droite à gauche, mais rien de concret. Et là, vraiment, dans une situation où, en gros, on n'avait aucune certitude sur la réouverture des studios, sur comment ça allait se dérouler, à quel moment, sachant que les studios ont été encore fermés jusqu'en juin 2021. Donc, on a longtemps après. Donc, l'idée à ce moment-là, c'était vraiment de, l'opportunité de vraiment avoir un accompagnement pour enfin lancer ce programme en ligne que j'avais en tête.
Que tu avais en tête, oui. Ouais.
Ouais, exactement. Et sachant qu'à ce moment-là, je venais de terminer ma première formation de pré-post-natal. Donc, j'étais déjà dans l'optique d'accompagner les futures mamans.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, tu avais déjà ton idée de sur quoi tu voulais te spécialiser, à qui tu voulais t'adresser. Tu avais déjà ton cœur de cible. Est-ce que en rejoignant Yogi Bizline, ça a été un peu challengé, ça? Ou au contraire, est-ce que ça n'a fait que te conforter dans l'optique de t'adresser à cette cible-là?
Un peu des deux. Ça m'a conforté puisque finalement, je suis restée hein, quand même sur cette... sur cette population-là. Mais en revanche, ça a été quand même challengé dans l'approche que j'avais par rapport à ça, le programme que j'avais en tête par rapport à ça. Je crois qu'au départ, je voulais, si je me souviens bien, je voulais lancer un programme d'accompagnement postpartum parce que il n'y avait vraiment pas grand-chose à offrir aux mamans. Et puis, avec l'évolution, avec toutes les réflexions qu'ont amené le programme, je me suis dit qu'il valait mieux commencer par faire les choses dans l'ordre, en fait. Donc, commencer par le prénatal et à faire ensuite évoluer autour de la périnatalité. Mais ça a été quand même challengeant, hein, toute cette partie où tu nous fais travailler sur la cible. C'est pas la partie la plus facile hein, de se cibler, de se nicher.
J'aimerais bien commencer par autre chose, mais il n'y a pas le choix, il faut commencer par là. Donc, on gravit quasiment les trois quarts de la montagne au début. Et puis bon, après, on comprend qu'une fois qu'on passe dans l'action, finalement, le reste, c'est du temps, de l'énergie, des choses, etc. Mais ce n'est pas si compliqué que ça. Mais c'est vrai que la première partie... le temps d'être bien au clair là-dessus, c'est un petit peu, enfin, effectivement, je pense que c'est la plus challengeante en tout cas.
Ouais, c'est challengeant parce qu'on se remet beaucoup en question.
Oui, aussi, il y a un gros travail d'introspection.
Exactement, puis bon, tu sais, c'est ce syndrome, on a tous envie que tout soit parfait, donc on va vouloir formuler la phrase au mot près pour positionnement bien cibler la bonne personne. Exactement, donc, c'est une partie un peu difficile ça.
En tout cas, effectivement, il y avait déjà l'idée de cette spécialisation. Et, et donc, du coup, depuis ce mois de novembre 2020, qu'est-ce que tu as concrètement mis en place pour développer ton activité de yoga en ligne? Où tu en es, depuis?
Alors, c'est la question que j'attendais et redoutais en même temps. Parce que, donc, il faut savoir que je me suis inscrite à Yogi Bizline en novembre 2020. Et j'ai sorti mon programme en mars 2022.
Oui.
Donc, il y a quand même un petit peu de temps qui s'est écoulé entre temps.
Alors, est-ce que c'est Yogi Bizline qui est vraiment nul et qui empêche de passer à l'action ou...
Pas du tout, pas du tout. Je pense que tu connais la réponse à cette question. Non, pas du tout. C'est, pour moi, c'était beaucoup de blocages de mindset qui m'ont empêché. Tu sais, encore une fois, hein, cette envie que tout soit parfait. Donc, on attend, on repousse. Donc, j'ai suivi tous les coachings de la première version. Et puis, finalement, il est arrivé déjà la deuxième version. Là, je me suis dit, mais tu n'as encore rien fait, Sarah, qu'est-ce qui se passe? J'avais quand même lancé entre-temps, je pense que ça devait être genre vers février ou mars 2021, ma chaîne YouTube. Donc, il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Mais voilà, c'était des vidéos par-ci, par-là. J'avais du mal à être régulière. Pareil pour ma liste email. J'envoyais des petites newsletters par-ci, par-là, mais pareil, avec du mal à trouver vraiment la cohérence. Et puis, moi, ce qui m'a empêché de passer à l'action tout de suite, c'était vraiment des histoires de mindset. C'était mon histoire personnelle. C'était le sommeil de mon fils qui était très difficile. Alors, je peux pas mettre tout sur son dos parce que
non, mais parce forcément que juste, c'est quand même des événements qui peuvent venir impacter le développement quand on est indépendante. Hein, tout ça, ça vient effectivement toucher et challenger notre quotidien. Donc
Exactement. Et puis bon, il n'était toujours pas gardé à cette époque. Il y a eu un troisième confinement. Puis est arrivé l'été assez rapidement derrière. Et l'envie pour nous d'avoir un deuxième enfant. Et comme je m'adressais à une cible de future maman, je m'étais dit, mais mon programme de yoga prénatal, ce serait tellement parfait que je le lance quand je suis enceinte, moi aussi. Sauf que bah, nous, c'était comme pour le premier, ça a été un petit peu long hein, d'avoir cette grossesse. Donc, je pense que c'était une des excuses que je me donnais pour ne pas me lancer. Mais qui du coup m'a duré un petit peu longtemps quand même hein. et puis finalement arrivé fin 2021 où je me dis bon ça fait 3 ou 4 ans que j'ai ce projet de programme en tête, j'ai acheté la formation de Cécile il y a un an, j'ai toujours rien mis en application ou très peu. Bon, il est temps à un moment donné de passer à l'action quoi. Si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Et puis je peux pas attendre qu'il y ait cette deuxième grossesse qui arrive alors qu'on sait pas si elle arrivera un jour. Voilà, à un moment donné, il faut se lancer. Donc je suis arrivée à fin décembre 2021 en me disant bon bah voilà, le plan d'action, c'était le moment où tu refaisais en plus la refonte du programme. Donc je me suis dit, écoute, je reprends le plan d'action Cécile, voilà, on repart sur la communication sur Instagram, je me fais un petit truc, arrivé fin janvier 2022, t'as lancé la refonte, j'ai tout dévoré, ce principe de prévente que je m'étais dit, mais jamais de la vie, je vais vendre un truc que je n'ai pas créé, je me suis dit, c'est parfait, c'est exactement ça que je vais faire. Et donc je me suis lancée en me disant, bon bah voilà, je suis le plan d'action de Yogi Bizdesign pas à pas, et ben, c'est ce que j'ai fait. Et puis, on est arrivé à mars 2022, où le programme a été lancé pour la première fois.
Et avec succès.
Donc, très, très heureuse de ce lancement. Et surtout, bah, d'être vraiment passée à l'action, en fait, pour une fois. Je pense qu'à un moment donné, vraiment, en termes d'état d'esprit, toutes les peurs étaient toujours là, hein. Ça s'est pas enroulé du jour au lendemain.
Bien sûr, elles n'ont pas disparu.
Non, elles n'ont pas disparu. C'est juste que je me suis dit, je ne peux pas passer ma vie à juste écouter ces peurs. C'est pas possible. Donc, j'ai mis ça de côté. Je me suis dit, bah, il me faut quelque chose, une directive pour me lancer. Ouais. Et donc là, c'était le programme. Hein. Tout est fait pas à pas pour que voilà chaque étape soit facile entre guillemets à mettre en place. Et voilà, et en fait, quand on suit le programme pas à pas, déjà, ça empêche de se poser trop de questions, de savoir si c'est exactement ça qu'il faut qu'on fasse ou pas, est-ce que c'est la bonne décision, est-ce que machin. Bon, le programme, il est là, on le suit, et écoute, il fonctionne hein, quand on le suit.
Et après, il se passe ce qui se passe, mais en tout cas, on est lancé, quoi, on a lancé la machine. Et en fait, je trouve ça super intéressant ce que tu dis et par rapport à toutes ces peurs aussi qu'on peut te traverser. Alors effectivement, il y a un aspect personnel sur lequel moi, je n'interviens pas et je n'interviendrai jamais dans mon programme. C'est-à-dire que voilà, là, il y avait quelque chose de profond sur lequel, voilà. Et puis même, de toute façon, c'est quelque chose dont tu n'as pas ouvertement discuté ou que tu n'as pas présenté cette problématique. Voilà, évidemment, parce que c'était quelque chose voilà de très personnel, d'intime. Et du coup, bon, j'ai pas pu effectivement agir sur cet aspect-là et j'aurais peut-être pas pu le faire de toute façon. Donc ça, c'est des choses, effectivement, sans les connaître, sur lesquelles je peux pas agir en termes de mindset dans le programme. Par contre, ce dont je suis convaincue, c'est qu'effectivement, ces peurs, effectivement, étaient peut-être toujours là, mais la deuxième, et donc la dernière version, la version actuelle de Yogi Bizdesign, qui a vraiment été recalibrée pour un passage immédiat à l'action avec ce système de pré-vente de bêta, c'est-à-dire on lance notre offre dans l'univers, entre guillemets, voilà, on la lance et puis ensuite on la crée. Je reste persuadée que versus une stratégie où on commence d'abord par créer du contenu, ce qui était le cas de la première version, et je pense que là, quand on est dans cette phase-là, du coup, de création de contenu, eh bien, ça ne fait que probablement renforcer pas mal de peurs parce que on n'a pas forcément le nombre d'abonnés. Enfin, on est là en train de scruter notre nombre d'abonnés parce que finalement on travaille beaucoup, on donne beaucoup de contenu, beaucoup de choses, mais on gagne pas d'argent, on développe pas de chiffre d'affaires. Effectivement, on est pris dans le tourbillon, voilà, de la création éventuellement Instagram, vidéo, newsletter, lead magnet, etc. Finalement, mais sans avoir une offre derrière à vendre, donc in fine, on n'est pas forcément de proposition non plus, on n'emmène pas notre audience vers quelque chose pour travailler avec nous. Donc du coup, je pense que ça laisse aussi la porte aux peurs, ça laisse les peurs s'engouffrer et prendre le temps en fait de cette impermanence de un coup je suis up parce que tout le monde a téléchargé mon e-magnet, puis un coup je suis down parce que ça avance pas, et puis mais effectivement j'ai rien à vendre, donc ça va être compliqué de développer mon business si j'ai rien à vendre. Donc, je pense que ça a vraiment fait aussi la différence dans le fait, non pas que les peurs, elles n'en sont plus là, comme tu l'as dit. Par contre, en réalité, les peurs, à partir du moment où on les reconnaît et où on décide qu'elles vont nous accompagner, qu'on leur laisse de la place, en fait, ça devient quelque part quelque chose de moteur et qui nous permet, on passe quand même à l'action avec nos peurs. Elles sont toujours là, mais comme on est dans l'action, au moins on avance.
Ouais, et puis pour le coup, je pense qu'à un moment donné, tu sais, c'est de savoir quelle est ta plus grande peur, quoi. Est-ce que ta plus grande peur, c'est d'être vue ou c'est de passer à côté de ta vie? On n'était peut-être pas à ce point-là, mais à un moment donné, où ça faisait 3 ans que j'écoutais ces peurs-là de si je me montre et si je propose un truc qui ne fonctionne pas et si ça plaît à personne et machin. Et puis au bout d'un moment, tu te dis, oui, mais en fait, là, moi, je ne sais pas. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont essayer et qui vont certainement réussir, peut-être se tromper, avancer, évoluer. Mais dans tous les cas, si j'essaie jamais rien, je ne pourrai jamais savoir.
Oui, tu n'as pas d'enseignement, exactement.
Et au bout d'un moment, cette peur de passer à côté et de finalement jamais rien faire, elle a fini par être plus grande que celle d'être vue, d'essayer et de me tromper, tu vois. Donc, c'est... pour le coup, il y a eu vraiment un déclic ou un ras-le-bol de en tout cas d'être l'idée par ça,
de se dire ça y est, moi aussi je peux le faire après tout, et en tout cas je dois essayer pour savoir quoi.
Je dois essayer. Et puis comme tu disais, on est quand même très très vite prise dans cet engrenage de créer toujours plus de contenu gratuit. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment tu te dis, parce que ça prend quand même vraiment beaucoup de temps, moi pour le coup c'était
surtout au début
à la fois Instagram et les vidéos YouTube. Finalement c'est toujours t'en tournes plusieurs à la fois, donc c'est une journée de tournage entier, puis après tu te tapes 3-4 jours de montage derrière, de machin. Ça prend quand même vraiment beaucoup de temps, en plus des cours que tu donnes en studio ou ceux qui te rémunèrent, pour le coup. Et tu dis, à force de faire ça, au bout d'un moment, tu dis, ok, mais là, je crée tout ce contenu gratuit, mais ça a aussi une certaine valeur. C'est à un moment, c'est à moi aussi de faire en sorte que cette valeur soit reconnue et que ce soit monétisé. Je me dis, si ça plaît, si les vidéos que je propose en ligne gratuitement plaisent, il n'y a pas de raison que celles que je vais proposer en payant ne plaisent pas. C'est, je pense que, en allant sur mes vidéos YouTube, on voit à peu près mon style d'enseignement. Ça plaît forcément pas à tout le monde, hein, c'est normal. Mais celles à qui ça plaît, je me dis qu'elles peuvent avoir envie quand même d'aller plus loin que des vidéos de 15-20 minutes et être un peu plus dans le fond du sujet. Sauf que si on propose jamais rien, elles n'auront jamais l'occasion d'aller plus loin.
Donc, on est d'accord.
C'est effectivement à nous de faire les choses, quoi.
Donc, du coup, c'est à ce moment-là que ton programme Gaïa est né, donc un programme que tu as pré-vendu. Donc, on a eu combien d'inscrites pour la première cohorte?
12 inscrites. 12 inscrites, sachant que j'avais ouvert les portes de la vente pendant une semaine, il me semble. une semaine. Alors, j'avais un petit peu paniqué au début, hein, parce que pendant 3 jours, j'ai eu zéro vente. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le 4e jour, ou la fin du 3e jour, ça a commencé à arriver. Puis là, il y en a eu 1, 2, 3, 4. Donc, je t'avoue que sur le moment, au début, je me suis dit, bon, heureusement que j'ai suivi la méthode de Cécile, parce que si j'avais passé 6 mois à créer un programme qui ne s'était pas vendu,
ça, c'est clair.
Ça m'aurait un peu agacée. Et puis finalement, les ventes sont arrivées après, donc très très contente. Et puis, une fois que les ventes ont été fermées, j'ai lancé la création des modules que j'avais en tête. Et bon, ça pour le coup, ça m'a quand même bien pris. C'était 6 modules, donc ça m'a pris 6 semaines hein, concrètement, module par semaine.
Le principe, effectivement, donc tu crées ton module et puis pour pouvoir le délivrer la semaine d'après. Alors effectivement, exactement. C'est 6 semaines où il faut être concentré,
c'est
plus tendu. Oui, c'est intense. Alors après, c'était aussi un choix de le faire sur 6 semaines. Ça aurait pu complètement être sur 12 et puis avoir quelque chose qui se crée, 2 semaines pour faire la création. Bon, après, une fois que c'est fait, par contre, du coup, là, ça y est, t'as ton programme.
Exactement, parce que tu sais, on est vite dans cet état de perfectionnisme où on dit, en fait, si on se laisse 6 mois pour faire un truc, on va prendre 6 mois et
exactement.
Plus. Je m'étais engagée par rapport aux personnes qui se sont inscrites à délivrer les modules toutes les semaines pendant 6 semaines. Et du coup, j'avais pas le choix. C'est un contrat. En fait, c'était au-delà d'un contrat avec moi-même. C'était un contrat avec ces personnes-là qui m'avaient fait confiance avant même de voir quoi que ce soit, de créer. Donc en fait, quand on est dans des conditions comme ça, on fait les choses. Je sais pertinemment, je me connais, que si j'avais dû créer le programme avant de le vendre, j'aurais mis 6 mois, 1 an, voire plus. C'est certain.
Parce Mais que, ça, c'est, enfin, c'est clair. C'est pour ça que cette méthode-là, ça reste quand même pour moi la recette idéale. Alors effectivement, c'est une façon de faire. Et puis après, comme on le voit dans le programme, moi, c'est des options qui sont disponibles. Mm-hmm. Après, effectivement, on peut faire autrement. J'aime bien l'idée justement de pouvoir proposer des options pour que chacun puisse personnaliser. Mais c'est certain qu'à chaque fois, c'est la même conclusion sur la pré-vente. C'est que soit effectivement, si jamais le lancement est raté, au moins, j'ai rien perdu, je peux réajuster, je peux relancer quelque chose d'autre derrière. Soit effectivement, c'est un lancement qui connaît le succès et je sais pertinemment qu'en fonction du temps du programme, grosso modo, je vais donner naissance à quelque chose et j'ai la motivation pour le faire. J'ai éventuellement la trésorerie pour le faire si j'ai besoin d'investir. Ça permet. Alors oui, c'est vrai que c'est du taf, mais ça permet effectivement d'être fait et mieux que parfait, quoi. On a un timing, exactement. On a une cadence, on fait les choses et puis on viendra itérer et les améliorer peut-être sur une deuxième cohorte, sur une deuxième version. Mais pour l'avoir vécu aussi, la première cohorte de Yogi Bizline, c'était une pré-vente. Et donc, en 3 mois, finalement, j'ai donné naissance à un programme complet. Versus là, quand j'ai travaillé la refonte, j'ai mis 4 mois, mais c'était laborieux. C'est-à-dire que il y avait quand même, je savais que les gens étaient dans l'attente d'une refonte, mais en soi, c'est pas le même effet que effectivement quand on revend, quand on est en pré-vente et qu'on crée au fur et à mesure. Mais même si c'est challengeant, c'est vrai que il y a quand même une énorme satisfaction qui ressort de ça in fine.
Concrètement, c'est challengeant parce que c'est beaucoup de boulot, mais ça a été 6 semaines de boulot intensif, mais aujourd'hui, mon programme existe. Aujourd'hui, j'ai un programme que je peux revendre.
Ouais, alors justement, c'est ce que j'allais dire. C'est quoi, du coup, la réussite de ça aujourd'hui? C'est quoi les bénéfices d'avoir fait ton programme en pré-vente aujourd'hui? C'est de pouvoir effectivement te dire, je peux revendre ça à l'infini, quoi.
Exactement. Et c'est que, en fait, ce produit, il existe. Il est maintenant, aujourd'hui, il est concret. C'est plus le truc que j'avais dans la tête, que j'ai imaginé. C'est là, concrètement, il y a une vidéo, il y a tout le programme. Donc mon programme, il est à destination des futures mamans. Il est surtout tourné vraiment vers l'accouchement. Cette semaine, j'ai envie de pleurer avec des pensées. Cette semaine, j'ai eu un message d'une des mamans qui fait partie du programme, qui bah, la première à avoir donné naissance à son petit bébé.
Ah, c'est chouette.
Ça. Ouais, donc ça c'est vraiment tu sais le au-delà du programme en lui-même, ouais, c'est ouais, le, ouais. l'accomplissement.
Ouais. Et un peu de ta mission aussi quand même. Hein. Là, bah, ça vient vraiment ouais, toucher.
Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et là, on est vraiment au-delà de voilà de diversifier les sources de revenus et compagnie. On est vraiment dans un truc.
Carrément.
Là, bah, on cherche tous hein, à aider les autres, à se sentir utile. Et là, tu le sens. En fait, là, concrètement, il se passe un truc. Et ce message de cette maman qui m'a dit que tout dans le programme lui avait été utile, qu'elle s'était servie de tout, qu'elle avait eu l'accouchement de ses rêves, que elle savait pas comment me remercier, mais en fait, juste ça, en fait, de, ouais. de savoir que ce programme que j'avais en tête et bah, sur lequel j'avais quand même beaucoup de doutes, hein, est-ce que ça va être vraiment utile ou pas? Bah voilà, l'accomplissement, le meilleur remerciement, il est là, quoi. Il est là.
Et c'est que de se dire que même pour une personne
ouais.
qui finalement a profité de ton programme et a pu, grâce à ça, donner naissance dans les conditions, enfin, comme elle voulait et avec plus de confiance, etc. Et là, tu dis, OK, rien que pour une personne, ça valait le coup ouais. que je diffuse mon ouais. message, que je lance un programme, que je crée quelque chose.
Et ouais, vraiment, vraiment, parce que je pense qu'on a toutes, en tant que prof de yoga, toute cette envie hein, d'aider les autres, d'être utile. Alors après, c'est peu importe la personne qui est ciblée, mais quand tu sais que ce que tu as pu proposer a aidé vraiment quelqu'un, ouais, c'est vraiment, là, tu te dis, j'ai pas fait ça pour rien, quoi.
Mm-hmm. C'est clair.
Ouais.
Ouais, ouais, c'est une belle, c'est une belle mission, ça donne du sens à tout ça. Et effectivement, encore une fois, si moi je pouvais passer un message à toutes les profs de yoga qui nous écoutent et qui ont envie de lancer quelque chose et qui ne le font pas, justement, hein, parce qu'il y a ces peurs, parce qu'il y a ce syndrome de faire quelque chose de parfait, parce qu'il y a ce syndrome de ne pas être légitime, ben, c'est que voilà, il y a forcément quelqu'un, quelque part, qui attend ce qu'on a à proposer au monde. Et il y a un petit audio d'ailleurs là-dessus effectivement dans le programme, mais voilà, c'est la reconnaissance, c'est ouf après, donc faut y aller, quoi. Faut passer à l'action. Et du coup, comment tu vois la suite maintenant, finalement, que ça y est, ton programme est lancé, donc t'as ta chaîne YouTube, t'as ton compte Instagram, t'as des newsletters, alors voilà, t'as ton écosystème finalement qui est en place. Alors, on en est où maintenant? C'est quoi la next step? Comment tu vis du coup le développement de ton activité en ligne?
Alors là, les next steps, c'est, pour être honnête, il y a eu certainement un petit manque d'organisation de ma part quelque part. Hein, donc, pendant que j'ai créé le programme, Instagram,
ouais,
j'ai
complètement laissé de côté
parce que j'avais pas le temps en fait.
Bah,
c'était la priorité, c'était vraiment de créer le programme, de délivrer les vidéos, les modules. Donc là, il faut réactiver un petit peu tout ça et surtout, bah là, la next step, ça va être de relancer le programme. De manière un peu plus ouverte, donc pas forcément en cohorte, mais de laisser libre aux futures mamans de s'inscrire quand elles le souhaitent, donc de rendre le programme evergreen. Comme c'est un programme qui est vraiment tourné sur l'accompagnement à l'accouchement, là, moi, mon envie, c'est de développer aussi un espèce de membership, de plateforme VOD, de vraiment de vidéos pour accompagner toute la grossesse, pas juste du coup la prépa à l'accouchement,
oui.
Et quelque chose qui soit du coup un peu plus poussé que les vidéos sur YouTube, qui sont généralement des petites vidéos de 15-20 minutes. Là, j'ai envie voilà de pouvoir proposer des cours, parce que pour le coup, un des enseignements de la chaîne YouTube, c'est j'ai beaucoup, de plus en plus de commentaires de futures mamans qui font les vidéos, qui me disent que c'est des vidéos qui leur plaisent beaucoup, que j'ai eu un mail la semaine dernière d'une personne au Canada qui m'a envoyé un petit mail en me disant que elle avait cherché, elle avait retourné tout YouTube pour trouver des vidéos de yoga prénatal.
Mes clientes sont suivies à l'international. Quel prestige.
C'est ce que je me suis dit. mais qui m'a dit que mes vidéos de prénatal étaient celles qu'elle préférait, la meilleure chaîne pour elle. Donc, c'est à la fois très, très gratifiant et d'un autre côté, je me dis, j'ai envie de pouvoir leur apporter plus, de creuser un peu plus. Donc, des vidéos avec des formats un peu plus longs, des vidéos avec des formats plus variés aussi, pouvoir proposer des petits rituels autour de la grossesse et pas juste du yoga prénatal. Ouais. C'est un moment qui est quand même hyper particulier qui dure finalement quand même très peu de temps. Donc voilà, je vais pouvoir leur proposer une expérience un peu plus poussée que juste des petites vidéos par-ci par-là, parce que je sais qu'il y en a beaucoup en fait qui les font, qui cherchent en tout cas à pratiquer tous les jours pendant leur grossesse. Et voilà, je me dis qu'avec une vidéo par semaine, bon bah peut-être que au bout d'un moment elles tournent un peu en rond, donc pouvoir diversifier un petit peu les formats que je leur propose. Et puis bah dans l'idée, l'optique de la big picture, c'est aussi de pouvoir proposer ensuite l'accompagnement en post-natal et de vraiment pouvoir suivre voilà toutes les phases de autour de la maternité.
Donc ça, c'est un petit peu les pions entre guillemets que tu as posés sur ta suite d'offres, ton écosystème d'offres.
Exactement, ouais. Exactement. Sachant que bah, j'ai aussi en tête pour le coup un programme de post-natal.
Ouais. Pour on t'arrête vraiment, plus quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Bah, en fait, tu vois, c'est ce qu'on disait avec, je sais plus, avec Sandrine, je crois, qui fait le programme aussi, il y a du design. C'est une fois que tu as mis le doigt dans l'engrenage et que tu as commencé à faire un truc qui fonctionne, et ben en fait, c'est hyper motivant. T'as envie de, voilà, de plus t'arrêter, quoi. Et puis, tu te dis, bon, ben, génial, si cette première idée a pu être développée comme ça, peut-être que il y a plein d'autres choses que je peux faire. Et c'est, ouais, c'est un gros moteur, quoi.
Ouais, mais j'aime bien l'idée de, enfin, ce que j'aime aussi dans cette approche et quand c'est bien fait, donc effectivement comme tu le fais, comme le fait Sandrine, c'est justement aussi de pouvoir poser toutes ces idées sur cette map en fait d'écosystème d'offres. Et par contre, voilà, de pas partir dans tout en même temps pour éviter justement de se disperser, mais de dire ok, la first step, ça va être ça. Et tu vois, ça rejoint un petit peu ton idée au début qui était de t'adresser au postpartum. Eh ben, ça va arriver, tu vois, mais il a fallu passer par d'autres étapes. Tu as accepté de passer par ces étapes aussi, et ça, c'est vachement important parce que voilà, t'es engagé aussi dans la réussite et t'as accepté de dire ok, je vais pas lancer ça d'abord ou je vais faire les choses dans le bon ordre, et voilà, avec les éléments qu'on a pu aussi voir en coaching, etc. Et comme quoi, bah, on arrive toujours, in fine, petit à petit, voilà, à là où on veut aller et peut-être à notre projet de base, ou peut-être justement aller jusqu'au bout de tous les projets ou toutes les offres auxquelles on a envie de donner naissance, c'est le cas de le dire. Mais voilà, faut faire les choses. Enfin, il y a un moment donné où on ne peut pas être partout, où on ne peut pas s'adresser à tout le monde d'un coup. Ça va prendre sens pour toi, qui t'adresse à ces mamans aujourd'hui. Demain, effectivement, si tu lances un programme ou un membership sur le postpartum, bah, voilà, tes clientes, tu les auras entre guillemets déjà. C'est des clientes que tu vas pouvoir fidéliser. Et donc, il y a aussi moins ce travail organique d'aller chercher des nouveaux clients. Mais en fait, bah, les offres qui existent déjà vont servir à ces futures offres. Et tu vas pouvoir effectivement leur proposer quelque chose d'évolutif, etc. Et vouloir tout faire en même temps, bah, ça aurait moins bien fonctionné, quoi, effectivement. Ouais. Et c'est bien de commencer par la première marche, en fait.
Ouais, ouais, c'est certain. C'est, voilà, tu le dis, du coup, c'est très bien expliqué dans la refonte de Yogi Design. Oui. C'est toute cette création d'une suite d'offres. Il faut qu'il y ait voilà, une connexion logique parce qu'on a plein d'idées qui partent dans tous les sens. Et puis, bon, à un moment donné, il faut quand même se poser et savoir, OK, par où je commence. Bon, bah voilà, c'est logique que je commence par là et puis tu faire un petit peu le parcours client, quoi.
Ouais,
voir ce qu'on va pouvoir lui proposer, qui soit logique et qui lui soit bénéfique aussi. Donc, ouais, c'est effectivement, ça prend du temps, mais voilà, quand on prend le temps de faire les choses bien, c'est hyper gratifiant. Je pense qu'il faut aussi quand même qu'on précise, parce que ça a été le cas pour. Certaines des participantes au programme dernièrement de proposer certaines offres qui fonctionnent pas tout de suite. Et ça, pour le coup, c'était un truc auquel je m'étais préparée, hein, parce que moi, dans le début de ma vente, là, où il y avait aucune vente qui n'était faite, là, mes 3 jours de panique, bah, tout de suite, je me suis dit, bon, OK, alors déjà, je suis contente de pas avoir tout lancé, de pas avoir tout créé.
Tout créé.
OK, maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Bon, bah, si ça fonctionne pas, OK, je vais proposer ça. Et c'est OK, en fait, s'il y a une idée qu'on a en tête qui fonctionne pas tout de suite, c'est peut-être réajuster, recalibrer ce qu'on propose. C'est le cas de Claire, j'ai vu ses messages récemment là dans le groupe. Et c'est en fait hyper intelligent. Je pense que même si ça fonctionne pas tout de suite, une fois qu'on a commencé quand même à vraiment mettre en place les étapes du programme que tu proposes, ça permet en fait de générer tellement d'idées que on se dit bon bah ok, celle-ci elle fonctionne pas aujourd'hui, bon bah voilà, je vais tester autre chose. C'est-à-dire qu'on se retrouve pas
ça va vite, en disant... et ça va vite aussi,
et ça va
on,
vite
on peut pivoter rapidement parce que du exactement. Coup on s'est pas enlisé dans un truc
exactement, et il y a une espèce d'émulation dans le travail dans le que tu es en train de faire qui fait que donc tu dis bon ok, ça ça a pas marché, voilà, on pivote, on va proposer autre chose et voir si ça fonctionne mieux. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, en tout cas, que dans le groupe en ce moment, il y a personne qui se dit bon bah voilà, ça a pas marché, j'arrête tout, c'est pas fait pour moi.
Non, ouais. Voilà,
on n'est pas du tout dans cet état d'esprit là.
Tout le monde sait que c'est interdit d'être dans cet état d'esprit. Personne ose.
Peut-être que c'est ça, personne n'ose. Mais non, je pense qu'il y a vraiment un truc quand même qui fait que tu dis bon bah. C'est ok
mieux,
en fait d'essayer
ça et passer à l'action. Ouais.
Tu dis c'est ok d'essayer, que ça fonctionne pas. Ça veut pas dire que rien ne fonctionnera jamais. Ça veut pas dire que je suis nulle et qu'il faut que j'arrête de vouloir proposer des choses
exactement,
et que je m'enferme dans ma grotte pour le reste de ma vie. Quoi.
C'est
donc
ça,
non même.
Mais
même
ça c'était super important pour moi aussi que ça transpire dans Yogi Bizlang parce que être entrepreneur c'est ça. Être entrepreneur c'est avoir des idées, leur donner vie, ça marche pas, savoir arrêter un projet, savoir pivoter, savoir prendre des décisions. Et donc, voilà, la formation qui te dit tu vas voir, c'est des miracles, tout va marcher du premier coup, ou tu vas avoir X followers ou je sais pas quoi. Moi, je veux pas vendre ça. Moi, je veux vendre effectivement le développement d'un business en ligne sur le long terme et avec la vie vraiment d'un indépendant et d'un entrepreneur. C'est-à-dire, il faut savoir aussi lancer, tester, améliorer, pivoter. Ça, c'est des qualités aussi d'entrepreneur. Et d'ailleurs, voilà. Et je vois que ça fonctionne effectivement, notamment avec la dernière version et notamment avec la communauté qu'on a créée. C'est que ça, c'est bon, c'est entre guillemets presque acquis, je dirais, quand on est dans le programme et dans la communauté. Ouais. Donc ça, c'est chouette en effet. Ouais.
Mais
pour moi, c'est vraiment important. Ouais.
Ouais, c'est hyper important à dire, je pense, parce que en France, on n'a pas du tout. Alors, c'est pas une culture de l'échec, mais.
Mais clairement, oui, c'est vrai.
Il faut qu'on soit bien conscient que. Tout ce qu'on essaye dans la vie ne peut pas ne peut pas fonctionner. C'est ok, ça veut pas dire que il faut tout arrêter. Il y a autour de ça, je pense que dans le business, les entreprises en ligne, des trucs comme ça, on parle souvent d'une analogie, tu sais, avec un bébé qui apprend à marcher. Il va se casser la figure 150 000 fois, il va pas pour autant dire non, ok, la marche c'est pas pour moi. J'arrête, clair. Je reste assis.
Envoie la spécialiste là de la périnatalité.
Ouais, c'est peut-être mes exemples à moi.
Mais c'est très bien, c'est une très belle métaphore. J'aurais pas su l'expliquer comme ça, moi, en tout cas. Donc c'est bien, ça change de discours aussi, c'est très bien.
Ouais. Mais voilà, il faut que garder cet aspect-là en tête aussi parce que c'est vrai que tu invites dans le podcast. Des profs qui ont lancé une offre, qui a fonctionné, choses comme ça. Mais c'était important quand même de rappeler que ça prend parfois plusieurs essais, que c'est OK. Et que tous ceux qui réussissent, à un moment donné, ont échoué aussi. Parce que c'est impossible de juste avoir que des trucs qui marchent.
Que des succès, exactement.
Exactement.
Oui, j'entends bien, oui.
Donc,
Et d'ailleurs, ouais, j'en parlais la dernière fois, effectivement, en story. Alors, c'est vrai que c'est bien aussi d'en parler là. Mais oui, voilà. Pour moi, ça fait vraiment partie de ce que je veux transmettre aussi. C'est vraiment de cette mentalité d'entrepreneur qui teste des choses. D'ailleurs, j'aime bien dire, tombez pas amoureuse de vos idées pour cette raison-là.
Ouais.
et pour autant, effectivement, ça veut pas dire ne pas aller au bout des choses. Ça veut pas dire c'est pas abandonner, etc. C'est juste effectivement savoir rebondir, pivoter et se dire ok, ça fait partie du chemin. Et d'ailleurs, j'en parlais aussi dans le dernier épisode quand je faisais le lien avec la pratique de yoga. En yoga, on se dit pas j'arrive pas tout de suite, j'abandonne quoi. Donc ça, c'est un bon reminder effectivement. J'avais une dernière petite question puisqu'on parle de la communauté, on parle de Yogi Bizlang. Je me dis, si j'étais prof de yoga de l'extérieur, je pourrais avoir tendance à me dire, ok, mais je vais rejoindre une communauté de, je crois qu'on est 180 et quelques aujourd'hui dans le groupe Yogi Bizlang. Mais du coup, si j'ai justement avec ce truc de, mais si on est plusieurs avec la même idée, si on est plusieurs, et donc j'en profite parce que sur tout ce qui est prénatal, postnatal, évidemment, il y a pas mal quand même de profs de yoga qui sont spécialisés là-dessus. Est-ce que Enfin voilà, j'imagine que de l'extérieur, on pourrait se dire, bah ouais, mais alors du coup, voilà, on va savoir ce que je fais, on va pouvoir copier mes idées, ou alors, bah, si on est toutes sur le même truc, justement, ça renforce un peu cette idée de comparaison, de concurrence. Alors, est-ce que toi, t'as ressenti ça? Est-ce que tu penses que c'est, enfin voilà, ou est-ce que au contraire, justement, cette communauté permet de voir qu'en fait, il y a justement à cet endroit-là un soutien peut-être entre profs de yoga qu'on a moins ou qu'on ressent moins. C'est pas qu'il n'existe pas peut-être, mais on a des a priori sur de l'extérieur, se dire, voilà, oh, faut que je fasse des trucs dans mon coin, faut pas que je partage mes idées, faut pas qu'on sache ce que je fais parce que sinon la prof de yoga à côté, elle va piquer le truc et tout. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus en tant que du coup prof de yoga dans mon programme et dans ma communauté, dans la communauté YogiBizLine.
Ouais, c'est une question hyper intéressante parce que je pense que j'ai pu avoir peut-être cette peur la première année où je me suis inscrite au programme et où du coup j'ai rien fait. C'était pas une grosse peur, mais en tout cas c'est vrai que c'était une question que je me posais, même si ça m'a jamais empêché de poser des questions, de partager des choses comme ça. Et puis en fait à un moment donné, quand on voit le fonctionnement du groupe, les échanges qu'il y a dessus, le soutien hyper important qu'il y a entre les membres, je sais pas, ça, juste cette question a complètement disparu à un moment donné.
Ouais, quoi. D'accord. Ouais.
Et puis moi, quand j'ai décidé de vraiment me lancer à fond, je crois que j'ai dû partager vraiment toutes les étapes par lesquelles je suis passée, voilà, en expliquant tout ce que j'avais envie de faire et toujours énormément de soutien. J'ai jamais ressenti à aucun moment de compétition entre les profs. J'ai pas eu peur qu'on me vole mes idées parce que à un moment donné, c'était aussi à moi de pas juste avoir des idées et de les mettre en place.
De les mettre en action, ouais,
tout à partir du moment voilà, où tu es dans l'action, je pense que cette question, elle se pose plus parce que justement, tu es dans ton truc. T'arrêtes aussi de regarder trop ce qui se passe à côté, t'arrêtes de comparer sans arrêt tout ce que tu fais parce que t'as pas le temps. Parce que
ça,
voilà,
c'est vrai. Je suis d'accord.
Si tu veux, si tu veux.
Moi, les gens qui scrollent sur Instagram, je sais pas comment ils font parce que moi, sincèrement, j'ai pas le temps dans mes journées, quoi. Enfin, voilà, quand t'es dans l'action, quand t'as des choses à faire, quand t'as des clients, quand t'as un programme, quand t'as tout ça, enfin, voilà. Alors, je vais me prendre consciemment du temps, par exemple, une demi-heure le soir, un moment plus calme pour me dire, tiens, je vais aller un peu voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que j'y suis pas, ou alors peut-être à ma pause du midi parce que je suis 2, 3, 4 personnes que j'aime bien, dont j'aime bien aller voir les stories en particulier, mais je suis pas en train de, parce qu'effectivement, t'as pas le temps, ça c'est clair, c'est certain.
Non, à partir du moment, où tu te mets vraiment en marche dans le développement de ton activité.
De ton business,
Je pense que c'est inconscient, mais du coup, il y a un moment où t'es tellement focus sur ton truc que tu regardes plus ce qui se fait à côté. Ouais. Évidemment, c'est toujours présent, mais tu dis bon là l'objectif c'est moi d'aller au bout de mon projet, donc je vais me consacrer à ça et du coup tu vois plus trop la côté. Mais non, pour le coup, la communauté, le groupe Facebook de YogiBizLine, à aucun moment j'ai ressenti de compétition. À la fois, j'ai pas ressenti envers moi. Et à aucun moment, je l'ai ressenti non plus envers d'autres membres.
Oui, complètement.
Non, c'est vraiment que du soutien. Après, tout le monde ne participe pas de la même façon parce que on n'en est pas non plus au même stade de développement et puis dans la vie personnelle et choses comme ça. Mais quand, tu sens les membres qui partagent leurs avancées et choses comme ça, c'est vraiment que du soutien. Et en fait, je crois qu'on a besoin de ça quand même parce qu'on est, on est en tant que prof de yoga, on est généralement souvent très seul. Et on a quand même vraiment besoin, même s'il est en ligne et qu'on se voit pas concrètement les unes les autres, on a besoin de ce soutien entre nous et pour le coup il est vraiment très fort, je trouve, dans ma communauté.
Ouais, non mais ok, parce que vraiment c'est important pour moi. Ce qui est important, c'est ce que tu as dit finalement, que en fait ça vient presque même lever cet aspect de se comparer, de regarder ce que font les autres, de la compétition et tout. Donc ça va même encore plus loin parce que ça vient vraiment même éventuellement lever des blocages, le fait d'appartenir comme ça à une communauté de profs de yoga qui tous ont l'objectif commun de développer leur activité en ligne. Donc ça, effectivement, Je trouve ça super chouette que ce soit perçu comme ça. Et aussi, il y avait moi ma problématique au démarrage, c'est que quand ton offre, elle est comme Yogi Bizline, qui est maintenant en Evergreen, donc accessible toute l'année, et donc avec des gens qui sont dans le programme depuis plus longtemps que d'autres. Et in fine, pour moi, ça crée justement une dynamique, parce que du coup, les petits nouveaux peuvent être aidés aussi par les anciens, et donc pas que par moi, mais par aussi des profs comme toi qui sont passés par là, etc., qui viennent un peu parrainer, quoi, enfin voilà, ou comme une marraine aussi, j'aime bien cette idée. Et puis, et en même temps, je trouve pour les personnes comme toi qui sont passées à l'action, qui ont lancé leurs offres, quand il y a des questions de profs de yoga qui sont en train de démarrer, c'est aussi de se dire waouh, j'ai parcouru du chemin, j'en ai fait des choses depuis. Je trouve que ça, c'est une super dynamique aussi, parce que ça sert tout le monde finalement, cette dynamique de groupe. Et donc, on pourrait se dire, moi, je préfère être avec des gens qui sont au même niveau que moi, qui avancent comme moi, effectivement. Donc oui, c'est une autre énergie, ok. Mais là, je trouve que le fait d'avoir justement des gens qui démarrent et des gens plus avancés, pour les deux parties, c'est win-win, quoi. C'est gagnant-gagnant.
Ouais. Ouais, complètement. Moi, il y a un truc, c'est bon, comme j'ai mis longtemps à vraiment me lancer, il y a un truc qui a fait qu'aussi, au bout d'un moment, je me suis dit, mais il y a des personnes qui se sont inscrites au programme après moi, sur la deuxième version, par exemple, et qui ont déjà lancé leur programme, alors que
ouais,
moi,
mais la deuxième version, elle était... elle est action. Ouais, c'est ça.
et d'un certain côté, en fait, ça m'a motivée. Je me suis dit, mais c'est pas possible que. Pourquoi moi je passe pas à l'action? Pourquoi je fais rien? Et puis il y a, effectivement, comme tu dis, après au bout d'un moment, t'as passé certaines étapes.
Plus de recul.
Et tu te dis, ah ouais. Je suis fière de moi, en fait.
Ouais, ça te permet de voir le chemin que tu as parcouru. Ouais, tout à fait.
Ouais. Non, franchement, la communauté, c'est un gros point positif. C'est hyper motivant parce que, au-delà de ta réactivité sur toutes nos questions, qui est hyper agréable et hyper utile, il y a aussi tout ce soutien les unes envers les autres. Et je pense que c'est ça fait vraiment partie aussi de l'expérience en elle-même, parce que on est très isolés et on a besoin, je pense, d'avoir ce soutien.
En tant que prof de... Ouais.
Plus que ce que je pensais, je me suis rendu compte que ça m'avait été quand même hyper utile, que ça m'avait vraiment porté plus que ce que je pouvais imaginer, quoi. Mm-hmm. Donc, dans les moments où tu doutes et tout, où t'as toujours quelqu'un pour te soutenir, pour te remotiver ou quoi, c'est hyper important parce que... Quand tu perds la motivation, que tu es tout seul et que la personne qui comprend ce que tu essayes de faire, parce que t'as beau expliquer à ton mec, à ton entourage.
Oui, c'est pas pareil, mais c'est le même. Moi, je rencontre ces problématiques-là aussi aujourd'hui en tant qu'entrepreneur d'une manière générale. Donc, effectivement, c'est hyper important d'être entouré, quoi. Ça, c'est certain. Ouais. Si tu nous écoutes, que tu te sens seule, isolée, rejoins notre communauté. Tu vois, on est sympa.
Et on s'entend vachement bien.
Ouais, en plus. Il y a même des rencontres quand même à organiser de temps en temps. Notamment, pas loin de Toulouse, il y a eu, il y a quelques mois, je crois maintenant. Ouais. Je sais plus qui s'est rencontré là dans les filles, mais c'était super sympa.
Oui, il y avait des petites photos échangées, des rencontres.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'était super sympa. Et merci en tout cas, Sarah, pour tout ce partage. On va arriver à la fin de notre épisode. Est-ce que tu aurais un dernier message peut-être pour les personnes qui n'osent pas se lancer, pour leur éviter peut-être de procrastiner ou de rester avec leur idée de programme en tête et de rien faire finalement.
Bien sûr. Je pense qu'on en a un peu parlé de cette idée déjà dans l'entretien, mais c'est cette idée, moi, ce qui m'a quand même beaucoup accompagnée, beaucoup portée, c'est cette idée de quelque part, il y a une personne qui a besoin de ce que tu as à donner. Il y a une personne qui... attends, ton programme, il y a une personne que ton programme ou ton membership ou ton offre, quelle qu'elle soit, va aider. Et cette personne-là, en fait, c'est de toi dont elle a besoin. Mm-hmm. C'est de ton message, c'est de la façon dont tu vas le porter. Et même s'il y a d'autres personnes qui vont avoir une idée, un programme un petit peu similaire, personne ne le dira jamais de la même façon que toi. Et en fait, tu n'en sens pas ces personnes, cette personne-là que tu prives d'une avancée dans sa vie, que tu prives d'un bien-être ou de voilà, quelque chose qui va pouvoir l'aider. Et ça, moi, pour le coup…
Faire la différence dans sa vie.
Ouais, exactement. C'est un truc qui… ça a un côté un peu égocentrique, hein, peut-être, de se dire qu'il y a quelqu'un qui nous attend. Mais je pense que c'est vraiment le cas, en fait. Quand tu as quelque chose à donner, à offrir… bah, y a forcément quelqu'un qui va être là pour le recevoir. Et bah, tant que tu n'as pas créé ce programme, bah, cette personne, elle ne peut pas le recevoir, elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas, voilà, elle peut pas avancer vers certaines étapes de son bien-être. Donc voilà, il est temps de créer ton programme,
ouais,
et de l'offrir au monde.
Oui, tout à fait, c'est très juste. Et pour conclure, bah, effectivement, je dirais que on est tous uniques, quoi, vraiment. Chacun a ses dons uniques, sa façon de communiquer, son expérience. Et en fait, ça rendra, quoi qu'il en soit, ton programme, ton business incomparable. Et donc, voilà, il faut y aller et il faut oser. J'aime cette citation, alors que j'ai jamais parfaitement en tête, mais oser faire scintiller ta lumière pour effectivement faire briller celle des autres aussi, quoi. C'est grâce à ce que toi tu produis, tu fais, tu transmets, etc., que tu viendras impacter quelqu'un qui t'attend, quoi.
Ouais, exactement.
Exact. Ben, merci beaucoup, Sarah, pour la
Avec
qualité
grand
de cet entretien.
Plaisir.
Et puis, je te souhaite plein de succès pour la suite.
Merci beaucoup, Cécile.
À bientôt. Salut, Sarah.
Salut.
Si tu nous as écoutés jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a probablement plu. Tu retrouveras toutes les informations en bio, enfin, dans les notes de cet épisode, pour retrouver le travail de Sarah. Et pour rejoindre le programme et la communauté Yogi Bizline, si toi aussi tu as envie de lancer ta première offre de yoga en ligne pour la rentrée par exemple, sache que Yogi Bizline ne prend pas de vacances et t'accompagnera tout l'été pour développer ton business en ligne. Yogi Biz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, comme tous les lundis à 7h. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.